Bonsoir, le chiffre du jour, de la semaine, de l'année, de l'histoire du football, 222 millions d'euros. Transfert historique, il est signé Neymar da Silva Santos Junior. Jeune joueur arrivé à Paris aujourd'hui pour, dit-il, rêver plus grand. Le président du PSG a dit tout à l'heure sur la valeur de Neymar, « Je m'attends au moins au double dans deux ans ». Le monde du football est-il devenu fou? Pourquoi tant d'argent? Et le sport? Et le jeu dans tout ça? Envie de réagir? Par mail, c'est sur la page du téléphone sonne, franceinter.fr. Sur les réseaux sociaux, c'est avec le mot dièse, tel sonne. Et bien sûr, au 01 45 24 7000, ça fait à peu près une minute que je parle. Neymar aurait empoché 56 euros si on se base sur un salaire de 30 millions d'euros par an.
Noé da Silva, le téléphone sonne.
Et la première question ce soir en direct, c'est avec vous, Guy. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir France Inter. Bonsoir la France Inter, comme dit Charline. Merci d'être là pendant l'été. Ma question, j'ai un constat, c'est que vous venez de dire qu'en fait, le joueur de foot, c'est un placement financier pour certains et qu'il espérait le revendre le double, c'est même certain. C'est parti comme ça, dans cette folie, comme vous l'aviez indiqué. C'est le constat que je fais d'un certain écœurement au niveau du foot, surtout en ce moment avec les mondiaux d'athlétisme. Et on sait très bien que ces athlètes sont loin de ces sommets financiers. Ma question est très simple. Je voudrais savoir qui fixe la valeur d'un joueur, qui fixe sa valeur marchande, en quelque sorte, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'un jour, il ne va pas y avoir une cotation au Palais Brongniart avec Neymar, Ronaldo, Messi et puis d'autres, hein, pourquoi pas? Et qui fixe les valeurs? Et quels sont les critères? Je ne pense pas que ce soit des critères de QI, c'est plutôt les critères sportifs. Et voilà ma question.
Alors merci à vous, Guy. Le foot est-il devenu fou? Pour vous répondre ce soir sur France Inter, Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez développé le concept de géopolitique du sport et avec le Qatar, on aura besoin de votre éclairage. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Jacques Bertrand, avocat du sport, notamment du joueur parisien Ben Arfa. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous, Christophe Le Petit, économiste du sport, responsable des études économiques du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est peut-être à vous d'ailleurs qu'on va poser la question de Guy. Est-ce qu'il y a une bourse du foot qui fixe la valeur d'un joueur?
Écoutez, non, il n'y a pas encore de bourse du foot. Effectivement, peut-être qu'on y viendra un jour, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour répondre à la question de votre auditeur, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la valeur d'un joueur, ce qui les détermine en premier lieu, je dirais, ce sont des critères objectifs et sportifs, tels que la place que ce joueur-là occupe sur le terrain, tels que ses statistiques, si c'est un attaquant, le nombre de buts ou de passes décisives qu'il réalise, si c'est un défenseur, le nombre de cartons ou le nombre d'actions qu'il est capable d'annihiler. Sa nationalité, le nombre de matchs qu'il a joué déjà dans le championnat, et puis un élément très important, deux éléments très importants même, le nombre d'années qu'il reste à courir à son contrat avec son employeur et sa rémunération. Et puis à ces éléments plutôt objectifs, ou en tout cas assez facilement vérifiables, on peut ajouter des critères plus subjectifs et qui font souvent envoler les prix. Notamment par exemple la concurrence que peuvent se livrer des clubs autour du recrutement de tel ou tel joueur. Plus il y a de clubs qui souhaitent attirer un joueur chez eux, plus le club qui est vendeur va pouvoir faire monter les prix. Et puis bien évidemment, on en a beaucoup parlé avec Neymar ces derniers temps, des critères marketing, c'est-à-dire quel est le potentiel marketing du joueur, est-ce que ce joueur va vous permettre de vendre des maillots, est-ce que ce joueur va vous permettre de conquérir de nouveaux sponsors ou de renégocier à la hausse des sponsors que vous avez déjà chez vous.
Jacques Vendroux.
Oui, il y a un élément extrêmement important qu'il faut rappeler aux auditeurs de France Inter. On parle par exemple de 225 millions pour Neymar. C'est-à-dire que c'est Barcelone qui a fixé la somme de 225 millions au moment où il a signé son contrat, en lui disant « si tu ne vas pas jusqu'au bout de ton contrat, il lui restait 3 ans de contrat avec Barcelone, oui, eh bien tu devras payer, ou le club devra payer 225 millions ». Donc au départ, s'il y a une cote qui est faite, elle est faite par le club qui détient le joueur. Pour juste vous faire une comparaison toute facile, on parle de 225 millions pour Neymar, qui a quitté le Paris Saint-Germain, qui a quitté Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Si par exemple Monsieur Ronaldo décide demain matin de quitter le Real Madrid, eh bien son billet de sortie, c'est pas des billets, c'est des tonnes de valises ou je sais pas comment ce qu'on peut dire,
des camions même,
c'est des camions de valises, c'est 1 milliard d'euros. Donc vous voyez le tarif de libération est fixé déjà par les clubs.
Christophe Le Petit.
Oui, juste effectivement, Jacques Vendroux parle effectivement de ce qui s'appelle des clauses libératoires. Alors c'est un système qui est très prisé en Espagne et dans d'autres pays européens. Mmh. C'est un système qui n'est pas autorisé en France par la Ligue de football professionnel. Et j'ai envie de dire que cette cotation, elle est valable et non valable. Elle est valable effectivement au moment où le club souhaite, ou si le club qui est propriétaire du joueur ou avec lequel le joueur est sous contrat ne souhaite pas vendre le joueur. Alors là, effectivement, n'importe qui peut arriver et dire « je paye la clause libératoire et votre joueur ne vous appartient plus ». En revanche, si le club vendeur souhaite libérer son joueur, il est tout à fait possible de conclure un transfert pour une valeur inférieure.
Et de ne pas payer cette clause.
Exactement, de ne pas payer l'intégralité de cette clause. Et dans ce cas-là, les clubs négocient de gré à gré et parfois des indemnités qui sont inférieures aux clauses libératoires. Mais là, on était typiquement avec Neymar dans le cadre d'un club, le FC Barcelone en l'occurrence, qui ne souhaitait pas vendre son joueur, et donc l'unique solution pour le Paris Saint-Germain de pouvoir l'acquérir était de payer la clause libératoire, ce qui faisait que Barcelone n'avait même pas son mot à dire, puisqu'une fois que la clause était payée, le club était libre de s'engager où il souhaitait.
Et pourtant le club râle depuis quelques jours. 19h26, on va au 01 45 24 7000, où nous attend Eric. Bonsoir Eric, bienvenue.
Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. On sait qu'il y a un montage financier assez nébuleux, justement, pour cette histoire des 225 millions d'euros. Est-ce que ce montage financier est légal? J'aurais aimé savoir si on pouvait, éventuellement, qui pouvait s'opposer à ça, parce qu'on sait que le Qatar a un statut particulier. Donc, est-ce que c'est lié au statut fiscal particulier du Qatar? J'aurais aimé avoir quelques explications et vous dire aussi, j'en profite, mon dégoût par rapport à l'énormité des sommes quand on voit la réalité des gens, pour m'être des fois occupé de migrants qui sont à Vintimille, j'imagine qu'il doit y avoir des jeunes de 20 ans qui sont des Neymar là-bas et 225 millions, ça me semble inadmissible, mais enfin.
Alors voilà. Eric, pour vous répondre, Jean-Jacques Bertrand qui est avocat du sport, est-ce que le montage financier est légal? Est-ce que c'est nébuleux, comme le dit Eric?
Alors d'abord, personne ne le connaît. Tout le monde parle de montage financier parce qu'à la base, on imagine mal que le joueur puisse de sa poche avoir 222 millions sur son compte bancaire pour effectivement se libérer.
A priori, c'est le Paris Saint-Germain qui a payé cette
clause. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que le Paris Saint-Germain, d'une manière ou d'une autre, a permis à ce joueur d'avoir cet argent sur son compte. Alors de quelle manière? Soit c'est une avance sur une prime à la signature, c'est parfaitement possible, soit ça peut être un prêt, j'essaye d'imaginer, mais on n'est pas dans le secret du contrat, ça peut être aussi un prêt que fait le club et qui est remboursé ensuite par un amortissement. On peut imaginer plein d'hypothèses, mais il n'y a pas, à mon avis, vu la transparence nécessaire que le club doit avoir dans ce dossier, sur tout le monde est alerté depuis plusieurs jours maintenant, de montage financier qui révélerait un scandale quelconque. Quant aux avantages du Qatar en France, ça n'a aucun rapport. Le joueur, sur ses salaires et sur toutes ses rémunérations, sera soumis aux charges sociales et aux impôts normaux.
Alors justement, le Qatar, Pascal Boniface, quand on parle du Qatar et dans le football, alors Eric l'a dit, il y a une sorte de nébuleuse.
Pour ceux qui n'aiment pas le football et ceux qui n'aiment pas le Qatar, c'est effectivement l'occasion 10, là, oui. Effectivement. Mais comme l'a dit Maître Bertrand, les avantages fiscaux du Qatar concernent les plus-values immobilières. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Et le ministre de l'économie, Monsieur Darmanin, enfin des comptes publics, s'est plutôt félicité d'avoir un gros contributeur fiscal qui arrive en France parce que les maillots du PSG qui seront vendus en Chine, ça va quand même rapporter de l'argent en France.
Et près de 300 millions. À l'État français.
Voilà. Donc c'est plutôt un plus. Mais effectivement, le Qatar a depuis de longues dates, depuis 20 ans, une stratégie d'investissement sur le sport pour exister sur la carte. C'est un tout petit pays, minuscule, avec très peu de nationaux, qui est entouré de géants qui ne vivent pas toujours du bien. L'Arabie Saoudite ou l'Iran.
Oui, il y a une crise diplomatique. Est-ce qu'on peut imaginer que cet achat de joueurs sert à redorer
non.
L'image du
Disons
Qatar.
Que l'achat de Neymar va pas faire que les Saoudiens vont arrêter l'embargo et le blocus qu'ils ont sur le Qatar, mais le Qatar veut montrer qu'il continue et qu'il n'est pas impressionné par effectivement l'hostilité que lui vaut aujourd'hui les Émirats Arabes Unis qui possèdent Manchester City par ailleurs et l'Arabie Saoudite, et donc ils continuent leur stratégie de longue durée d'investir. Dernier point sur ce sujet, le Qatar va héberger la Coupe du Monde en 2022. Neymar, qui sera à l'époque le meilleur joueur du monde puisque Messi et Ronaldo auront très certainement pris leur retraite, sera l'ambassadeur. Donc il y a, au-delà des chiffres qui peuvent affoler, je comprends ça, mais il y a une cohérence. On n'est pas
un véritable investissement là.
Oui, on a parlé de folie, mais c'est une folie rationnelle pour le PSG projet, qui peut espérer avoir un retour sur investissement en termes de droits télé et de merchandising au moment où le football se mondialise et où la Chine s'ouvre au football et donc avec un marché énorme, et pour le Qatar qui va organiser la Coupe du Monde.
Serge est au téléphone au 01 45 24 7000. Bonsoir et bienvenue au téléphone sonne.
Bonsoir et merci à vous. Moi, je voudrais soulever un aspect légèrement différent, c'est-à-dire que tous ces joueurs, bon, 222 millions, on entend beaucoup d'argent. Donc, c'est de l'argent a priori privé, puisque c'est un business, bon, comme un autre. Mais il se trouve que ces joueurs, pour gagner autant d'argent et pour qu'il y ait autant d'argent qui circule, ont besoin d'infrastructures qui, elles, ne sont pas forcément payées par le même argent, quoi. Et je voudrais bien savoir quelle est la part de ce business donc privé qui interviendrait dans les infrastructures dont ils ont besoin, finalement, pour générer autant d'argent, quoi.
C'est-à-dire que le football utilise des stades, par exemple, financés par l'argent public.
Voilà, alors ils ne servent pas que pour eux, mais ils en ont besoin aussi. Est-ce qu'ils y contribuent ou pas? Voilà, dans quelle proportion si...
Ben, ils payent.
Pascal Boniface.
Ils payent Marseille, payent l'OM, payent un loyer à la ville de Marseille qui possède le stade Vélodrome. Le parc des Princes appartient à la ville de Paris. Il y a une convention entre la ville de Paris, et d'ailleurs le Paris Saint-Germain aurait voulu l'acheter, mais la ville de Paris a refusé parce qu'elle veut conserver ce bien immobilier.
Et donc
il y a un loyer qui est payé.
Christophe, le petit économiste du sport à Limoges, est-ce que on peut dire que c'est que de l'argent privé et qu'on n'a pas à s'en mêler, ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'argent public?
Alors sur les infrastructures, et en tout cas pour ce qui concerne le cas français, il y a quand même pas mal d'argent public, puisqu'effectivement les infrastructures, les stades sont très largement payés par les collectivités territoriales. Dans le cadre des rénovations, construction de l'Euro 2016, il y a eu également des montages en partenariat public-privé, donc mixant de l'argent public et de l'argent privé. Donc aujourd'hui, ces grandes infrastructures sont la propriété encore bien souvent des collectivités territoriales, avec des loyers ou des redevances qui peuvent être payées par les clubs. Donc je dirais qu'il y a un mélange un petit peu de l'argent public et de l'argent privé. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est que bien sûr qu'on peut toujours trouver que ces sommes donnent le tournis, et c'est peut-être indécent, mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a quand même malgré tout une solidarité qui existe aujourd'hui entre le sport professionnel et le sport amateur, avec des reversements d'argent de l'un vers l'autre, et bien sûr du sport pro vers le sport amateur, et qu'il faut aussi comprendre que le sport professionnel et le football professionnel contribuent à l'attractivité, à la notoriété des villes, et contribuent également au bien-être des populations résidentes, puisque les stades sont quand même relativement bien pleins en Ligue 1, avec un taux de remplissage de l'ordre de 70% sur la saison dernière.
Daniel est au téléphone avec nous et veut réagir dans ce téléphone sonne. Le foot est-il devenu fou? Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir. D'abord, félicitations pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Donc voilà, moi je vous téléphone surtout pour vous faire part de ma réaction un peu personnelle, parce que je trouve un petit peu le montant de ce transfert, excusez du terme, scandaleux. Moi je suis le football depuis de nombreuses années, et je trouve que le football a perdu de son âme. C'est devenu football business, football argent, et je trouve ça déraisonnable. On est quand même dans une grosse période de crise, beaucoup de gens au chômage. Et moi, j'aimerais bien connaître la réaction des autres équipes engagées au niveau de la L1, parce que je pense qu'elles ne partent pas du tout au même niveau, ils n'ont pas les mêmes chances, en même égalité quoi que le PSG.
Alors Jacques Vendroux, le directeur des sports de Radio France, va vous répondre. On parlait tout à l'heure justement avec Christophe Lepetit, l'économiste du sport, des retombées là en ce qui concerne le monde du football, la Ligue 1 déjà.
La Ligue 1, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, le championnat de cette année a été extrêmement passionnant. Et même s'il y avait, une domination de l'Olympique Lyonnais il y a quelques années, après du Paris Saint-Germain, après de Monaco, en règle générale, le championnat reste toujours, intéressant. Et puis, il faut bien se mettre dans la tête, une fois pour toutes, que ça soit le président de Guingamp, que ce soit le président de Bordeaux, que ce soit le président du Paris Saint-Germain, que ce soit tous les dirigeants du foot français, ils ne sont pas des philanthropes. C'est-à-dire que s'ils se lancent dans ce genre de challenge en dépensant autant d'argent, alors là c'est très spectaculaire parce que c'est Neymar, mais il y a d'autres salaires évidemment qui prêtent à discussion avec d'autres joueurs. Je veux dire, c'est que le football est une porte de sortie. Et quand vous dites que les stades sont pleins, oui. Quand vous regardez les indices de retransmission,
pas toujours sur pleins les stades.
Enfin, en règle générale, ils sont pas mal. Il y a beaucoup de parce que
ça pour une raison. Des horaires,
non, mais attendez. Il y a un élément nouveau qui est intervenu à l'occasion de ces deux dernières années, c'est que la majorité des stades ont été rénovés et donc les conditions pour aller au stade sont beaucoup plus intéressantes qu'il y a quelques années. Je dis pas que je veux vendre l'indéfendable. Je dis qu'il y a un progrès énorme. Et donc, c'est une porte de sortie pour les gens. Vous organisez des championnats du monde de handball en France, les salles, elles sont pleines à craquer. Vous organisez une Coupe du Monde au football ou un championnat d'Europe, les stades sont pleins à craquer. C'est-à-dire que l'image de football, quelque part, et même si ça peut surprendre, eh bien, elle reste intacte et il y a autant de supporters partout.
Pascal Boniface de l'Iris.
Oui, on entend souvent cette protestation sur l'argent qui tue le football, mais on l'entend depuis que le football professionnel existe. Lorsque Sochaux, qui a été le premier club professionnel, a été créé, on disait c'est injuste, c'est Peugeot qui est derrière, et donc ils vont truquer le championnat, il y aura plus d'équilibre, il y a des cycles de domination d'un club ou l'autre. Alors je comprends, bien sûr c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas parce qu'on compare votre auditeur précédent par rapport aux migrants, mais Neymar y est pour rien, même s'il vient pas, il y aura toujours des migrants, et il y aura toujours des gens qui auront du mal à se loger, ce n'est pas, il n'y a pas un lien de cause à effet.
Oui, mais je pense que ce que veulent dire les auditeurs, et là, on m'apporte des mails et je vois les mails, c'est cet esprit-là. À l'époque, on nous dit qu'il faut nous serrer la ceinture, etc. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas faire baisser le niveau? On voit que là, on passe de millions.
Il y a deux arguments par rapport à ça. C'est que ce n'est pas de l'argent pris aux contribuables. Ce que les gens protestent, c'est lorsque les dépenses publiques se réduisent là, c'est pas le budget de l'État qui paye Neymar, ce sont au contraire des ressources privées qui sont indexées sur le fait qu'il y a plus en plus de gens qui payent des abonnements pour voir des matchs à la télévision, il y a plus en plus de gens, regardez la queue qu'il y avait sur les Champs-Élysées pour acheter des maillots de Neymar, et ça, personne n'est forcé de le faire. Donc, les gens sont plus payés dans le football parce que il y a plus d'argent qui vient. Et donc, les joueurs bénéficient du produit qu'ils créent. Moi, ce qui m'étonne, et juste un mot là-dessus, c'est que quand c'est Neymar ou un autre footballeur, il y a toujours un tonnerre de protestations sur ce qu'il gagne. Mais quand c'est Beyoncé, Rihanna, quand c'est Placido Domingo, quand c'est George Clooney, ben on dit pas c'est scandaleux, George Clooney gagne une fortune alors qu'il y a des migrants et alors qu'il y a des gens qui ont du mal à se loger. C'est que pour le football qu'on dit ça. Ou les grands patrons. Et donc, c'est toujours pour le football, parce que quelque part, depuis l'origine, il y a, chez certains, une sorte d'inconscient qui fait qu'on n'a pas le droit d'être payé pour jouer au ballon.
Christophe Le Petit, économiste du sport à Limoges, et après Jacques Vendroux. Christophe Le Petit.
Oui, j'avais deux éléments. Le premier, qui fait écho à ce que Pascal Boniface vient de dire, c'est que de plus en plus, le football professionnel se détache du sport de base. On a d'abord appelé ça le sport spectacle, mais c'est clairement ça. On est désormais dans l'industrie du spectacle, au même titre que le cinéma, au même titre que l'art, au même titre que d'autres éléments. Donc je pense que de plus en plus, les sommes qui sont en jeu vont être importantes, parce que on est sur un secteur d'activité qui n'est plus, en tout cas sur le plan économique, comparable à ce qui se passe chaque dimanche ou chaque samedi sur les terrains de France et de Navarre. Et le deuxième élément, c'est que toute cette croissance, cette inflation autour des indemnités de transfert, autour des salaires des joueurs, elle s'explique également parce que globalement, l'économie du football mondial est en croissance très forte au cours des 20 dernières années et encore plus forte au cours des 5 dernières saisons. Les droits télé explosent partout, les montants de contrats de sponsoring explosent pour la plupart des grands clubs européens, et donc les premiers bénéficiaires de ces éléments-là, ce sont les joueurs, et en particulier, parce qu'il ne faut pas non plus oublier ça, parce que tous les footballeurs ne sont pas égaux sur le marché du travail, ce sont les superstars qui bénéficient de cette croissance des revenus, et Neymar fait partie de la catégorie des superstars.
Jacques Vendroux.
Oui, je parle là sous le contrôle de maître Jean-Jacques Bertrand. Il faut arrêter, mais franchement arrêter, de diaboliser systématiquement le football parce qu'il y a un peu plus d'argent. Je n'ai jamais entendu, je veux dire, les auditeurs téléphoner parce que Mick Jagger et les Stones réclamaient 30 millions d'euros pour chanter au Stade de France. Je veux dire, j'ai jamais entendu des manifestations, je veux dire, j'ai jamais entendu des gens qui n'étaient pas contents, etc. Mais systématiquement, on diabolise le football, on ne s'intéresse absolument pas, mais en revanche, on est en train de faire des compliments, je veux dire, aux professionnels du golf, aux professionnels du tennis, aux pilotes de Formule 1, qui gagnent autant d'argent que les footballeurs vedettes. Mais c'est la mode de diaboliser quand Platini est parti de Saint-Étienne à la Juve.
Foot. C'est beaucoup plus
évidemment,
exposé.
Évidemment, on taille le salaire des uns et des autres. Quand Ibrahimovic arrive, etc. C'est toujours le football.
C'est beaucoup plus exposé.
Oui, mais quand les Stones, je suis désolé, les Stones, c'est quand même quelqu'un...
Qu'est-ce que vous avez contre les Stones?
Mais non, mais pas du tout, mais moi j'adore. D'accord. Mais je veux dire, ils sont tous d'accord avec moi. Quand les Stones, ils réclament 30 millions d'euros pour chanter, pour faire un concert, je veux dire, au Stade de France, alors là, il n'y a pas de manifestation. Hein.
Mais sur les critiques, là, Jean-Jacques Bertrand, tout, hein, mais... avocat, le syndicat international des joueurs FIFPro demande à la Commission européenne d'enquêter sur ce transfert, sur les flux d'argent via les indemnités de transfert au sein des territoires européens. Ils veulent comprendre l'impact sur l'équilibre.
Oui, parce qu'il faut rappeler à cet égard qu'à la suite de l'arrêt Bosman en 1995, un gentleman agreement était intervenu entre la FIFA, la FIFPro et la Commission européenne, et le règlement de la FIFA actuel sur le règlement du statut et du transfert des joueurs en est sorti, sauf que la FIFPro estime que ce règlement est complètement dévoyé, puisque ils mettent dans l'application qu'il en est en tout cas, et par certaines décisions du tribunal arbitral du sport, pénalisent finalement plus les joueurs dans leur ensemble, aussi bizarre que ce soit, que les clubs qui ont aggravé encore le système des transferts tel qu'il existait. Et alors, dans le cas Neymar, on est dans le cas d'une clause compromissoire, donc d'une clause libératoire, qui a été convenue. Mais dans les autres cas, on dit que c'est l'offre et la demande. Donc voilà, il faut.
Un mot, justement, vous êtes l'avocat de Ben Arfa. Oui. Il n'a pas de clause pour quitter le PSG. Où est-ce qu'il en est?
Alors, d'abord, je ne voudrais pas parler de Ben Arfa, je ne suis pas là pour ça.
Ouais.
Deuxièmement,
comme je l'ai dit au début, qu'il est au PSG et que Neymar vient d'arriver.
Oui, mais les clauses libératoires qui sont autorisées en Espagne sont aussi autorisées par la FIFA, du reste, sont interdites en France. Donc il n'a aucune clause libératoire et il espère, il s'entraîne normalement, il espère pouvoir à un moment donné retrouver une place que beaucoup estiment qu'il mérite.
Dominique est au téléphone avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir Dominique.
Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités, bonsoir Monsieur Vendroux. Je crois qu'il ne s'agit pas de diaboliser le football, mais en ce qui concerne les clubs, il s'agirait de savoir, que je me fais peut-être un peu l'écho de beaucoup de jeunes, d'investir dans la formation des jeunes en quelque sorte, plutôt que d'investir dans des transferts qui coûtent très très cher.
Est-ce qu'il y a de l'argent qui retombe dans les petits clubs?
Alors attendez, d'abord il y a toujours de l'argent qui sont reversés via la Fédération Française de Football, je veux dire, dans des petits clubs. Et en ce qui concerne la formation, il se trouve, c'est pas de chance, que la formation française est l'une des meilleures en Europe. Et que le centre de Clairefontaine, par exemple, est considéré comme l'un des meilleurs centres, je veux dire, de formation. Et quand vous prenez tous les grands clubs, que ça soit l'Olympique Lyonnais surtout, que ça soit même l'Olympique de Marseille, que ça soit même le Paris Saint-Germain, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations qui sont faites dans ces clubs. Il faut pas imaginer, quelle que soit, je veux dire, la région, quel que soit le club, la formation a un rôle extrêmement important. Elle n'est pas du tout galvaudée.
Christophe Lepetit, économiste du sport, vous êtes au téléphone avec nous depuis Limoges. Quelles sont les retombées, justement, d'un tel transfert, par exemple, sur les petits clubs, entre guillemets?
Alors, je voulais effectivement apporter un complément à tout cela, parce que Maître Bertrand parlait tout à l'heure de l'accord de 2001. C'est un règlement qui date de 2001, le règlement des transferts. Et dans cet accord de 2001, sur le statut des joueurs, il est prévu que les clubs bénéficient d'indemnités de formation et de contributions de solidarité. C'est-à-dire que les clubs qui ont eu le joueur dans leur effectif, pas forcément sous contrat, mais dans leur effectif, entre son 14e et son 23e anniversaire, bénéficient d'une certaine somme, c'est un pourcentage, qui est prélevé sur le transfert du joueur pour le nombre d'années qu'il a passé dans ce club-là. Et on voit assez régulièrement des clubs français, notamment en région parisienne, mais pas seulement, qui bénéficient de montants qui sont extrêmement conséquents, notamment quand on les compare à leur budget annuel récurrent, parce que Pogba a été transféré l'an dernier, par exemple, de la Juventus de Turin à Manchester United. Donc moi, je pense que c'est déjà un élément intéressant. En revanche, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait, parce que c'est encore une fois un secteur en croissance, renforcer cette solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur. Pourquoi pas en augmentant cette contribution de solidarité, en augmentant les indemnités de formation, afin d'assurer une redistribution de revenus entre les grandes ligues et les petites ligues, entre les grands clubs professionnels et les petits clubs amateurs. Ça me paraît un élément fondamental et ça permettrait très certainement aussi de faire mieux accepter ces indemnités de transfert s'il y avait une vraie redistribution, une vraie solidarité qui s'exerçait dans tout le secteur.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
La mine dans quelques secondes, mais je vois Jacques Vendroux qui regarde son téléphone et qui s'impatiente. Qu'est-ce
que c'est? Non, je reçois des tweets en disant qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter, mais c'est vrai que c'est une émission mythique. Mais par exemple, j'ai Seb qui m'envoie un tweet. Ranieri, Bielsa, Payet sont de retour. Neymar arrive. Balotelli reste. Marseille revient avec une belle équipe en Ligue 1. Et on attend aussi Schneider peut-être à l'OGC Nice. Ça veut dire que il y a quand même des gens positifs en ce qui concerne le football, même s'il y a beaucoup d'argent.
Eh bien,
voilà,
justement,
je voulais intervenir.
Écoutez, Lamine. Bonsoir, Lamine. Bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir. Je vous remercie d'abord, France Inter, pour vos émissions.
Merci à vous.
En fait, moi, je vous appelais parce que je suis scandalisé d'entendre des gens scandalisés parce que Neymar touche tout cet argent. Parce que je suis en train quand même de me dire quelque chose. Si c'était un membre de leur famille qui toucherait cet argent, ils ne seront pas scandalisés, ils n'auront pas appelé pour se plaindre. Donc on arrête quoi. Moi, je trouve que ça, c'est une très bonne nouvelle pour le foot français. Et ce qui vous dit, moi, je vous le dis, ça, il faut savoir que moi, je suis un grand supporter marseillais.
Voilà.
J'espère que ça nous fera du mal, mais je trouve que c'est très bien, mais c'est une énorme chance qu'on ait au moins des pays comme le Qatar qui viennent investir dans le foot français. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le foot français, l'État ne va plus investir dedans. Les entreprises font de moins en moins de sponsoring, surtout pour le foot.
Mais Lamine, vous êtes supporter de Marseille. Est-ce que ça ne vous inquiète pas de voir Neymar arriver au Paris Saint-Germain pour votre club?
Mais pour mon club, on se battra avec nos moyens, parce que je pense qu'une fois qu'on aura mis les moyens financiers de côté, sur le terrain, c'est la tactique, la technique et la physique qui jouent. Il n'y a pas autre chose. Neymar, il va apporter ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain. Nous, avec nos recrues, on va apporter ce qu'on va apporter avec Marseille. Et après, on se battra.
Voilà, Lamine.
Neymar n'a pas la valeur de nos joueurs.
Voilà, mais vous parlez de Neymar qui ne vous fait pas peur, votre équipe qui va apporter ce qu'elle peut apporter. Il y a Edouard par mail, Jacques Vendroux, qui dit « Je croyais que le football était un sport d'équipe. Que fait Neymar seul sur le terrain? Rien. »
Non, mais faut pas parler comme ça, parce que Neymar... D'abord,
c'est pas moi, c'est Edouard.
Non, mais c'est d'abord, si on arrive à parler de Neymar d'une manière régulière depuis quelques jours, sur les différentes chaînes de radio et télévision, c'est que je rappelle quand même à cet auditeur que Monsieur Neymar, que ça lui plaise ou non, a 77 sélections en équipe nationale du Brésil, qu'il est champion olympique, qu'il n'a jamais gagné la Coupe du Monde, qu'il est titulaire indiscutable au Football Club de Santos où il a joué pendant des années, et titulaire indiscutable avec l'équipe de Barcelone pendant 4 ans en compagnie de Messi et notamment de Suarez ces deux dernières années. Monsieur Neymar est un très très grand joueur de football et il fait partie du top 3, c'est-à-dire Messi, Ronaldo, Neymar. Et
est-ce qu'il vient ici pour être numéro 1 parce qu'il ne pouvait pas l'être?
Mais tout ça, c'est pas vrai. Il vient parce que... Mais attendez, tout ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il vient pour vivre autre chose, pour avoir une nouvelle aventure, pour exister, parce qu'il était trop protégé à Barcelone et à Santos. Et maintenant, vous savez que c'est la décision de venir à Paris, vous savez qu'il l'a pris contre l'avis de sa famille.
Qu'est-ce qu'il dit?
Sa famille était contre. Son père était contre. Ouais. Il a dit non, maintenant c'est moi qui décide. Mais bien sûr que j'y crois. Pourquoi il a le droit de s'émanciper?
Je sais pas, j'ai lu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Évidemment, les gens n'y croyaient pas. Mais
moi, j'y
c'est
crois.
Un autre débat. Jacques est au téléphone avec nous ce soir. Au téléphone sonne. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir au téléphone sonne et à tout le monde. Ça fait à peu près 60 ans que je suis le foot, un petit peu moins. Bon, je dois dire que j'adorais le foot et je suis totalement écœuré et j'ai même de moins en moins envie de voir les matchs de foot. Quand je vois, par exemple, je serais curieux, mais je suppose que Vendroux, qui est un spécialiste, doit savoir par combien, en niveau égal d'argent, le salaire de Copa était par rapport au salaire de Neymar. Ensuite, je suis scandalisé que Neymar soit l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar. Faire une Coupe du Monde de football dans un pays minuscule
qui n'a aucune valeur dans le football, c'est d'un tel ridicule, d'une telle stupidité. Je suppose que Platini a dû toucher ce qu'il fallait pour ça. Hein ?
D'abord, monsieur, je vous réponds tout de suite, vous m'appelez pas Vendroux. Je suis Jacques Vendroux. Moi, je vous appelle pas.
Voilà, vous nous l'avez énervé.
Non, mais je suis désolé. On parle pas aux gens. D'abord, on parle pas aux gens comme ça. D'abord, dans un premier temps, surtout,
Jacques Vendroux, vous
surtout sur une antenne de service public et une antenne à laquelle je travaille depuis longtemps. D'abord, premièrement. Deuxièmement, comment vous pouvez, monsieur, oser comparer le salaire de Raymond Coppa, je veux dire, qui a 60 ans, enfin, je dirais, et le salaire de Neymar, je veux dire, les périodes ne sont pas les mêmes, la télévision n'existait pas, les radios n'avaient pas autant d'importance que maintenant, les télévisions privées comme Bein Sport n'existaient pas, on peut pas faire de comparaison.
Le monde a changé.
Le monde a complètement changé, donc vous pouvez pas vous permettre, en tous les cas, de faire ce genre de comparaison, et quand vous dites une nouvelle fois, alors c'est vrai qu'on va me reprocher de défendre Michel Platini, vous n'avez pas le droit de poser, de porter des accusations en lui disant il a pris de l'argent, ça veut dire qu'il a volé de l'argent, vous n'avez pas le droit de dire ce genre de choses. Vous n'avez pas le droit de porter ce genre d'accusations extrêmement graves, et là je parle sous le contrôle d'un avocat qui est Maître Bertrand, Jean-Jacques.
C'est exact.
Christophe Le Petit, économiste du sport, pardon, Jean-Jacques, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
On ne peut pas, sur une antenne, il faut faire attention à ce qu'on dit, pas seulement parce qu'on est invité, mais parce qu'on est auditeur, et c'est trop facile
d'avoir des informations concrètes. Soit quelqu'un a des informations concrètes sur cela, et donc c'est une information, sinon c'est de la diffamation.
Voilà. Christophe Le Petit, économiste du sport.
Oui, juste sur la croissance et sur l'inflation, cet auditeur s'offusquait un petit peu de ça en comparant avec le salaire de Coppa. J'ai récemment vu, moi, une infographie qui a été faite d'une excellente façon par un de vos confrères, qui appliquait en fait l'inflation des produits de consommation courante aux indemnités de transfert qui s'opéraient il y a 20 ou 30 ans. Eh bien, en fait, on se rend compte que si on applique l'inflation courante, hein, c'est-à-dire l'inflation de nos produits de consommation, les transferts ne devraient pas être de 100 ou 150 ou 200 millions d'euros, mais de 400 ou 500 millions d'euros. Ce qui veut donc dire que, quelque part, l'inflation dans le football a peut-être été moindre que l'inflation globale courante dans la ville, dans la vie. Après, bon, ça c'est une parenthèse, mais c'est vrai que cette inflation et ce qu'on reproche aux joueurs de foot de percevoir beaucoup d'argent, cela s'explique aussi par les revenus qui sont générés dans ce secteur. Encore une fois, si c'était une industrie qui ne générait pas autant de revenus, on pourrait pleinement dire mais ils sont trop payés, ça met en péril l'intégralité du secteur. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui le cas, et notamment parce que a été mis en place une règle par l'UEFA il y a 3 saisons qui s'appelle le fair play financier et qui garantit aussi la pérennité du système.
On en a parlé avec Jean-Jacques Bertrand, avocat.
Oui, juste à propos du salaire des joueurs, de certains joueurs, je reprends ce que disait Jacques Vendroux tout à l'heure, il faut quand même savoir que la très grande majorité des joueurs de football professionnels français gagnent des sommes qui sont très, très, très inférieures.
Ça serait quoi le salaire moyen d'un joueur de football
en
Ligue 1
Mais en Ligue 1, on est peut-être à 45 000, à peu près 40 000 euros par mois. Mais on tient compte du salaire de Neymar pour le fixer, donc forcément il y en a qui sont en dessous.
Et
en
deuxième, oui, c'est-à-dire que vous, avocat du sport aujourd'hui, si vous défendez un joueur et que vous devez négocier un contrat, vous allez vous baser sur celui de Neymar.
Non, c'est une référence. Non, la référence du salaire moyen. Et encore une fois, il y a les particularités de chaque joueur. Mais en deuxième division, ils ont 2000 euros les joueurs ou 5000 euros. Mmh. Hein, il faut voir les agents qui négocient actuellement aujourd'hui des contrats pour les joueurs de deuxième division. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a 600 ou 700 joueurs qui sont capables de jouer à ce niveau-là et les salaires sont nettement inférieurs.
Pascal Boniface. Je voudrais répondre 3 choses à l'auditeur précédent. 1, les joueurs touchent ce qu'ils rapportent. C'est-à-dire que plus il y a d'argent dans le football, plus les joueurs touchent ce qui me paraît justice, tout simplement. Et donc, effectivement, comme l'a dit Jacques Vendroux, il y avait moins de télévision, il y avait moins d'argent dans le foot à l'époque de Coppa. Néanmoins, quand Coppa faisait un match moins bon, dans les tribunes, il y a des gens qui criaient feignant, retourne à la mine. Parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient scandalisés par les sommes scandaleuses que gagnait Coppa à l'époque. Et troisièmement, peut-être que cet auditeur aime moins le foot qu'avant, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans les stades et qu'il y a de plus en plus de gens qui se massent devant la télévision pour voir les matchs. Donc le football est beaucoup plus attractif aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de Coppa.
Myriam est au téléphone avec nous. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question,
monsieur ? Alors, c'est pas vraiment une question. Je me permets de vous appeler pour la raison suivante. J'ai entendu à un moment donné, on disait que l'argent était redistribué dans tous les clubs, petits ou grands. Et je voulais faire remarquer que dans les petits clubs, les parents sont beaucoup mis à contribution le samedi et le dimanche, en particulier pour utiliser leur véhicule pour conduire les enfants pour les championnats et les tournois en fin d'année. Et j'aurais souhaité qu'un cours de cette émission puisse leur rendre hommage. Parce qu'il y a un nombre de bénévoles extrêmement importants sur les terrains et qui ont ce rôle très particulier de conduire les enfants. Les villes ou les clubs n'ont pas assez de pognon pour louer des cars ou mettre des cars à disposition des clubs. Et voilà, j'aurais voulu qu'on puisse rendre hommage à tous les parents, pères et mères, parce que les mamans, on y va aussi sur le terrain. Ouais. On amène des goûters souvent pour partager pour tout le monde.
Et hiver comme été, bien évidemment, et c'est pas tous les jours, pas toujours simple. Myriam, Christophe Le Petit, oui. Économiste du sport, va vous répondre justement sur ce côté bénévole dans le sport.
D'accord, merci.
Christophe Le Petit.
Oui, bah, écoutez, vous prêchez un convaincu parce que je suis moi-même, j'ai été longuement bénévole dans un club de football et j'ai beaucoup utilisé mon véhicule pour déplacer des enfants. Oui, c'était le modèle sportif français repose sur le bénévolat et c'est évident qu'il faut protéger notre modèle sportif et c'est en cela que je disais qu'il fallait peut-être une régulation nouvelle du système des transferts qui accroîtrait la solidarité entre le football professionnel et le football amateur et justement qui permettrait d'augmenter les moyens qui sont mis à la disposition aujourd'hui du secteur amateur pour valoriser le travail des bénévoles, pour améliorer les infrastructures et pour accueillir nos jeunes dans de bonnes conditions parce que bien évidemment, il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être les superstars de demain et donc il faut bien sûr privilégier et favoriser cette solidarité.
Pascal Boniface.
C'est sûr que le sport français en général dépend des bénévoles qui font un travail formidable mais en même temps, et pour l'avoir été longtemps moi-même, maintenant j'ai passé l'âge, mes enfants ne jouent plus au football, mais c'est aussi des moments formidables. C'est en rien sauf une contrainte. C'est que les gens qui accompagnent les enfants, les partagent, les tournois de Pentecôte, etc. Moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Donc, c'est effectivement bravo aux bénévoles, mais en même temps, c'est là aussi qu'on voit que le football rassemble les gens, qu'il crée de la convivialité, qu'il rapproche les individus. Et ça, c'est quand même, il y a peu de choses en France qui le font à ce point-là.
Frédéric est au téléphone, pardon. Bonsoir, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir à tous. On pourra trouver toutes les excuses que l'on voudra aux sommes qui sont fournies, mais il ne m'empêchera pas de dire que le foot, effectivement, est devenu fou. D'ailleurs, pour une raison, c'est que philosophiquement, si quelqu'un est payé, disons, 30 millions à l'année, ça fait perdre tout repère à la valeur du travail, disons, dans la société. Voilà, ça c'est la première chose. Puis le fait de vendre un homme comme une marchandise, comme une savonnette, ça paraît un petit peu curieux. Mais je crois que le problème, c'est justement dans les inégalités que l'on supporte. Le foot n'est pas le seul endroit où il y a des sommes monstrueuses qui sont générées et qui vont alimenter par ailleurs la finance internationale. Hein. Notre économie se dispose, on l'a dit, ça génère des bénéfices qui vont ailleurs. Mais les autres sports également, on a l'impression que, disons, tous les clubs, je pense au rugby aussi, est limité en plein compte par des joueurs qui sont des mercenaires.
Pardon de vous interrompre, Frédéric, mais la ligne de téléphone n'est pas très bonne, on ne vous entend pas très bien. Il n'y a pas que le foot pour vous qui est devenu fou. Il y a des grosses inégalités et vous regrettez également que des joueurs soient devenus des produits. C'est l'avocat du sport qui va vous répondre, Jean-Jacques Bertrand.
Oui, c'est sûr qu'on a des dérives, personne ne peut le nier, qui arrivent à des extrêmes comme celles qu'on voit concernant Neymar, mais il ne faut pas oublier quand même, encore une fois, la grande majorité de l'ensemble des autres joueurs qui est très loin de tout ce qu'on parle et de tout ce qu'on évoque et qu'il ne faut pas, dans un ramassis un petit peu de point de vue, comparer tout le football à une situation tout à fait exceptionnelle.
Voilà. Mais ça ne vous gêne pas quand le président du Paris Saint-Germain dit « on associe, là avec ce contrat, on vient d'associer deux marques ». Neymar et PSG.
Oui, mais ça me choque pas. Le PSG, c'est une marque déposée. Le joueur, il a certainement également déposé son nom. Donc, c'est effectivement deux marques. Après, tout dépend de la notoriété de chacune d'elles. Donc, il y en a un qui va se servir de l'autre ou les deux ensemble.
Christophe Le Petit, économiste du sport.
Oui, juste un petit complément parce qu'il se trouve que dans le cadre de nos activités au Centre de droit et d'économie du sport, on a une formation qui s'adresse aux anciens sportifs professionnels et en particulier aux anciens footballeurs. Ouais. On a eu la chance d'accueillir certains d'entre eux connus, très connus, et je peux vous assurer que contrairement à ce que l'on pense et contrairement à ce que l'on dit, ce sont pour la plupart, bien sûr pas tous, mais pour la plupart, des gens qui ont les pieds sur terre. Ils ont pour certains gagné énormément d'argent, mais un, ils se rappellent très 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 bien d'où ils viennent et ils savent pleinement qu'ils ont eu la chance chance de pouvoir bénéficier de ce système-là, mais que c'est pas la réalité de tous les Français et de tous les gens dans le monde. Et certains, pas tous, mais certains en tout cas, essaient de contribuer modestement et dans leur capacité à des causes diverses et variées, des causes solidaires, des causes caritatives, etc. Donc moi, je voulais juste te dire que faut arrêter avec le footballeur nanti qui pense qu'à lui, parce que ça n'est pas une réalité véritable.
Et la dernière question pour vous, Jacques Vendroux, c'est Philippa par mail qui dit, avec l'arrivée de Neymar, on termine avec le sport, avec l'arrivée de Neymar en Ligue 1, la Ligue 1 est-elle déjà jouée d'avance?
Non, elle n'est pas jouée d'avance, parce que l'AS Monaco n'a pas fini son recrutement, parce qu'il y a des clubs comme l'Olympique Lyonnais qui vont essayer de s'étoffer. Bon, c'est vrai que le Paris Saint-Germain redevient favori du championnat de France de Ligue 1.
Merci Jacques Vendroux, Pascal Boniface, Jean-Jacques Bertrand, Christophe Lepetit. Cette émission est à réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à tous. Il est 20h.